à Startup Ministries à Yverdon. Et elle est en troisième année de l'avoir parmi nous. Salomé, tu es un cadeau pour cette église. Vous aussi, vous êtes des cadeaux. Mais je l'encourage, elle doit prêcher, alors il faut l'encourager ce matin. Seigneur, merci pour cette matinée. On te remet ce temps où on veut se mettre à l'écoute de ta parole. Merci pour ce que tu as déposé dans le cœur de Salomé. Et que ce soit vraiment libéré pleinement. Et que nos cœurs soient en paix pour recevoir ce matin ce que tu veux nous dire. Que rien ne vienne perturber, rien ne vienne court-circuiter ce qui va être partagé. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Amen.
Merci Christian. Et moi, je suis aussi très heureuse d'être là. C'est un cadeau d'être ici. Et donc, la semaine passée, c'est Tom Pensy qui a prêché sur Marc 16 par rapport à Jésus au milieu de la tempête. Je vous invite à réécouter ou écouter ce message si vous n'étiez pas là. On le retrouve sur le site de l'Église. Et aujourd'hui, on va plonger et on va voir qu'est-ce qui se passe sous la tempête. Alors, on va plonger en eau profonde et je pense, oui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va aller assez profondément, mais petit à petit, palier par palier. Et en fait, avant de commencer, on va lancer une vidéo qui va illustrer la pensée qui sera partagée ce matin. Merci pour la vidéo. Donc, on perçoit que la force de l'éclosion, elle vient toujours depuis l'intérieur. Je n'arrive juste pas à faire défiler les slides. Donc, la 1 minute, j'essaye. J'essaye. Donc, la force de l'éclosion, elle vient toujours depuis l'intérieur. Et c'est quelque chose qu'on reconnaît dans la nature d'une manière très fréquente. Un volcan, il va jaillir parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Un poussin Il va craquer sa coque depuis l'intérieur avec sa propre force. Et l'Église, elle va être transformée depuis l'intérieur. Une personne, un individu, il est transformé toujours depuis son intérieur. C'est vrai que l'extérieur peut influencer d'une certaine manière, peut mettre comme une pression de dire, parce que les choses évoluent, parce que les temps évoluent, de dire il y a un changement qui doit être opéré, mais la conviction et le désir de transformation, il vient toujours depuis le cœur. Et on remarquera aussi que dans cette vidéo, la beauté, elle n'est pas seulement dans la finalité du projet de Dieu. Elle est aussi dans tout le processus, des racines jusqu'à l'éclosion. La beauté n'est pas seulement dans la finalité du projet de Dieu pour toi, elle est dans tout le processus de ta croissance. Il est donc important, comme tout vient du fond, tout vient du cœur, que nos intérieurs soient sains, soient rangés, aient de l'ordre et soient constamment purifiés. Alors, je vous parlais d'une plongée que nous allions faire ce matin ensemble et nous atteignons à cet instant le premier palier, Luc 6, 43 à 45, que je vais lire avec vous. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Donc, l'arbre, si la base est saine, il ne va pas porter des mauvais fruits. Et si la base est malsaine, il ne va pas porter de bons fruits. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. On a aussi une autre traduction qui dit « car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Pour l'humanité, c'est un copier-coller. On va reconnaître le cœur d'un homme, d'une femme, par ses fruits. Et les fruits vont dépendre de l'intérieur du cœur de l'homme, de la femme. Un trésor, quand on parle du bon trésor de son cœur, un trésor, c'est un lieu où il y a des choses vraiment précieuses qu'on fait attention et qu'on veut garder très proche. Le cœur, c'est le centre de toute vie physique et spirituelle. Donc, on reconnaît dans ce texte que dans nos cœurs, il y a un endroit très précis où est logé ce qui est précieux pour nous. Et c'est de cette base que va donner un bon ou mauvais fruit. On passe maintenant, nous gardons bien ça en tête, Luc, et on passe au palier, deuxième palier. On va venir dans Jacques 3, 10 à 12, que je lis avec vous. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Sur un pommier, ce n'est pas des courges qui vont pousser. Et de la terre, ce n'est pas des pommes qui vont éclore non plus. Alors, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Ça, c'est ce qu'on a lu juste avant. Et maintenant, on lit que de la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et ça veut dire que c'est comme par palier. Ce qui sort de ma bouche, en fait, c'est ce qui vient du cœur. La source dont fait référence Jacques ici, la source, c'est le cœur. La source qui peut donner de l'eau douce ou de l'eau amère, c'est le cœur même. Et cette eau, elle ne peut pas donner en même temps de l'eau douce et de l'eau salée. Le compromis n'existe pas dans ce texte. Alors la parole qui bénit, elle a pour source toujours le cœur. Et c'est comme ça qu'on arrive au troisième palier. On a bouche, donc bénédiction, parole, cœur. Mais le cœur a lui-même sa propre source, comme la bénédiction vient de Dieu. C'est le lieu secret. Pour illustrer ces paliers, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo avant. Le lieu secret, c'est en fait la source du cœur. C'est le cœur du cœur. On commence à être un peu profond là. On a parlé de la bouche ici, la bénédiction, qui passe par le cœur. Mais le cœur, il a aussi une source, il a aussi une racine. C'est les temps qu'on passe en communion avec Dieu. Parce que la vie, la bénédiction, elle vient de Dieu. Elle ne peut pas venir d'une autre source que le lieu secret, que en Dieu. La bénédiction, elle ne vient pas ailleurs que en Dieu. Alors, pour que nos cœurs soient remplis de bonté, de bons trésors, on est obligé de passer par Dieu. Il n'y a pas d'autre source. Admettons que la tige, c'est le cœur de l'homme. La fleur, l'éclosion, c'est la bénédiction. C'est ce qui va donner en surface. Ben, les racines, c'est clair que c'est le lieu secret. C'est les temps de communion avec Dieu. Parce que ce qui se passe entre toi et Dieu est de manière individuelle. Le lieu secret, on va en parler, hein, on va définir ça juste après, mais c'est individuel, c'est personnel, c'est un tête-à-tête, c'est toi et Dieu, et c'est personne d'autre. Donc ce que tu vis dans ce lieu va de toute façon passer par ton cœur et jaillir sur l'extérieur. Donc tout ce que tu vis, et aussi ce que tu ne vis pas dans ce lieu, va se refléter à l'extérieur. Le fruit bon va dépendre de ton cœur qui aura pris la source dans des racines qui sont divines. Ça marche jusque-là, je pense. Hein. Si vous n'avez plus d'oxygène, il faut dire là. On est trop profond. Non, non. On va descendre encore un peu. Quatrième palier. Matthieu 6, 6. Je le lis avec vous. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le lieu secret, en grec, c'est un terme qui signifie, qui est traduit en fait par caché, de être caché. Donc on peut aussi littéralement traduire « prie ton Père qui est dans le lieu caché et ton Père qui voit dans le lieu caché te le rendra. » Donc là, on a vraiment... oui, c'est les racines. On ne voit pas ce qui se passe sous la terre. C'est ce lieu-là, ce lieu qui est caché. Maintenant, donc, on parle de lieu caché. Il y a un terme qui est retranscrit dans la parole de Dieu qui définit lieu caché. C'est seter, lieu caché, en grec aussi, qui signifie aussi une couverture, un abri. Quelque chose qui est caché, mais pas dans le sens qu'il faut cacher, c'est pas bon. Dans le sens cacher, protéger, se mettre à couvert, être à l'abri. Et ce terme est utilisé dans de nombreux psaumes, notamment dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri, cette terre, du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure dans le lieu caché du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc ce terme, en fait là, la parole nous parle de ce fameux lieu caché. Et on comprend que ce lieu est en Jésus. Il est en Dieu, il est sous son abri. Et quand nous sommes dans ce lieu, nous sommes à l'abri de toute chose. On est caché en Jésus. C'est un lieu qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est un lieu où on est protégé d'absolument tout. Il n'y a pas d'endroit plus sécurisé pour ces temps qu'on vit encore sur la terre. Il n'y a pas d'endroit qui est plus sécurisé que ce lieu. Et ce terme, donc, qui est le même, on le retrouve aussi dans de nombreux psaumes. Ce terme qui nous décrit en fait ces temps précieux et cachés de communion avec Jésus. Dans de nombreux psaumes, il est défini aussi par une retraite, un abri, un asile, un abri, encore un abri, en secret, mon asile, un lieu secret, un abri. Et c'est pour ça que c'est dans symboliquement, on voit, c'est caché dans la terre, c'est à l'abri de... Et en même temps, c'est à l'abri, mais en même temps, c'est là aussi où je prends racine. C'est là aussi où j'ai mes racines, où est-ce que je suis enracinée. Il y a plusieurs définitions à ce lieu. Donc c'est un lieu de ressources. Et on peut comprendre pourquoi des fois c'est compliqué de prendre des temps avec Dieu. Et je rappelle encore une fois, on parle de temps seul à seul, tête à tête. Des fois, ça va être compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est parce que c'est la chose la plus importante que tu as, que nous avons, que j'ai à avoir ici sur terre. C'est être en communion avec Dieu. C'est vraiment la chose la plus importante parce que c'est mes racines. C'est là où... C'est le lieu de toute vie. Et ça arrive que certaines personnes, vraiment, ça bloque et n'arrivent pas à prendre ces temps. Ça bloque. Et c'est pas normal que ça bloque. On ne doit pas vivre comme ça. C'est pas normal si ça bloque. OK ? Il faut faire quelque chose. Parce qu'on est né pour être en communion avec Dieu. On est né, premièrement, pour avoir ces temps de communion avec Dieu. Alors si c'est une bataille à chaque fois c'est une bataille, tu vas ouvrir la Bible, tes yeux vont se fermer. C'est pas normal. Ok ? Et il faut... faut faire quelque chose. On est là. Vous pouvez partager, vraiment. Aussi, plus on est profond dans la mer, hein, plus c'est calme. Plus c'est paisible, c'est la même chose. Plus on est profondément dans le cœur de Dieu, c'est comme au fond de l'océan.
C'est paisible.
Je ne sais pas si vous étiez déjà dans l'eau très profond, mais vraiment, c'est calme. Quand, on a vu la semaine passée, Marc 16, quand Jésus dormait alors que c'était la tempête et tous les disciples étaient agités, Jésus, il dormait. Parce que Jésus, il était profondément ancré tout au fond de l'océan avec son Père et c'était calme. Et on a besoin de ces temps de calme parce que dès qu'on monte à la surface, tige et bénédiction, de toute façon, c'est moins calme. On a besoin de ces temps de tranquillité. On remonte un peu et on va un peu plus définir par rapport au lieu secret. Qu'est-ce que c'est? C'est où? C'est comment? Qu'est-ce que ça signifie? On retourne au psaume 91. Donc celui qui demeure dans le lieu caché, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est ce qu'on a lu. Et demeurer, c'est la racine du terme, c'est être assis, rester, habiter, s'asseoir. Donc, il y a une notion de temps. Ce n'est pas juste je viens et je repars. Il y a une notion où est-ce que vraiment on doit être intentionnel et prendre du temps. Et on peut prendre beaucoup de temps dans ce lieu. Des fois, c'est nécessaire de prendre beaucoup de temps. Ne pas être pressé. Juste profiter, entre guillemets, hein, de cette, la présence de Dieu où c'est juste lui et moi et rester. Sans agitation, juste y rester. Et enfin, ce lieu caché, mais où est-ce qu'il se situe? Il est où? Parce qu'on parle, on parle d'un lieu, et si on parle d'un lieu, ça veut dire qu'on essaye de définir quelque chose géographiquement. Dans Matthieu, on avait lu, il parlait d'une chambre, n'est-ce pas? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Alors, le lieu secret, il s'agit d'un lieu spirituel. C'est un lieu qui n'est pas arrêté géographiquement, mais qui peut se matérialiser d'une façon géographique. Ça peut être dans ta chambre, mais c'est un lieu spirituel. Ça peut être lors d'une marche dans la forêt. Ça peut être dans une pièce particulière de là où tu vis. Et on va s'apercevoir que plus l'on prie à la même place, dans une chambre, c'est l'atmosphère spirituelle qui va changer dans cette pièce. Parce que il se passe quelque chose quand on s'attend à la présence de Dieu et qu'on est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe d'une manière spirituelle, mais aussi d'une manière physique. Et dans la Bible, on a voilà des exemples donc, de lieux physiques, donc vraiment matériels, où on parle de ce lieu. Ça peut être voilà, dans Actes, une chambre haute, donc là où ils ont reçu le Saint-Esprit la première fois à la Pentecôte. On a aussi en Matthieu 21:13, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors là, c'est toute la maison. Et ensuite, on a aussi dans la Bible des références à des lieux qui sont spirituels, mais pas matérialisés. Je lis en Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc ma vie, elle est où? Elle est cachée avec Christ en Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir définir d'une façon matérielle. C'est spirituellement. Je suis cachée en Dieu. Quelquefois, on n'arrive pas à situer les choses. Qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui est matériel? Et on peut devenir légaliste. Mais ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. c'est souvent les deux. C'est comme quand les disciples, ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus, il n'arrêtait pas de parler de sa mort et de sa résurrection. Vraiment, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais Jésus, tu nous parles de ta mort, je ne comprends pas. Et après, tu dis, tu vas ressusciter. Je ne comprends pas ce que tu dis, parce que moi, je m'attends à un royaume politique, terrestre. Moi, je m'attends à que toi, Jésus, tu viens d'une manière politique et terrestre régner sur ce territoire-là. Et ils ont compris, après, notamment à la Pentecôte, que Jésus parlait d'un royaume spirituel, qui est tout autant véritable qu'un royaume politique et terrestre. Mais il n'est pas matériel, il est spirituel. Et souvent, on a cette ambivalence quand on lit la parole de Dieu et juste. Oui, demander à Dieu de nous éclairer sur ces aspects qui peuvent être compliqués d'un premier abord à comprendre dans nos cœurs. Tout ce qui se passe dans la prière est aussi véritable et réel que ce qui se passe en physique. Toutes les paroles que tu prononces dans le monde spirituel, un monde qui ne se voit pas, est aussi véritable et aussi solide que vous et moi, ici, maintenant, dans ce lieu. Ça l'est autant. Seulement, je ne vais pas le voir la même chose. Alors que Dieu ouvre nos yeux spirituels. C'est pourquoi nos paroles, on a parlé de paroles de bénédiction, pardon, et de paroles de malédiction. La parole a un gigantesque impact parce que c'est une parole qui est propulsée. On avait vu le 11 août, j'avais prêché le retour du Bénin par rapport une parole d'autorité qui nous était donnée, hein, dans la prière. On a l'autorité de chasser les démons, guérir les malades, proclamer le royaume de Dieu. Alléluia. Et ben, cette parole, elle est puissante, pas parce que c'est ma voix qui est puissante, c'est parce que c'est ce qu'elle transmet. C'est l'autorité de Jésus qui est tout à coup déclarée d'une manière visible dans le monde. Alors ces temps que nous passons en communion avec Dieu dans ce lieu qui est caché entre lui et moi, c'est des temps qui sont aussi vrais et solides et réels qu'un culte le dimanche matin ensemble où on loue. C'est des temps qui sont un enracinement en Dieu, caché en lui, et c'est des temps qui font vraiment la différence. C'est des temps qui sont réels. On remonte à la surface juste pour faire une synthèse de tout ce qu'on a vu. Il y a pas mal d'informations à creuser encore plus en profondeur. Donc, ce lieu caché, c'est l'accès à un lieu spirituel que nous pouvons situer physiquement, comme une chambre. C'est le lieu source du cœur. C'est le cœur du cœur, c'est la source du cœur. Et du cœur, par la bouche, sort la bénédiction ou la malédiction. C'est un lieu où je suis cachée, je suis à l'abri. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le seul lieu sur cette terre où nous sommes à l'abri. C'est dedans Jésus. C'est en lui. C'est dedans lui. C'est sous son abri. Et c'est un lieu où on y entre seul. C'est un tête-à-tête avec Dieu. La Bible nous parle des temps de communion. Ça, c'est bon, hein? C'est très bon, aussi en famille, avec amis, ça c'est très bon. Mais là, on parle d'un enracinement qui est personnel, d'un enracinement qui est individuel. On parle des personnes en tant que plantes, comme on a vu la vidéo. C'est vraiment important de le faire seul avec Dieu, parce qu'on est son enfant. et demeurer, donc rester dans ce lieu, y passer du temps, s'asseoir, prendre le temps. On arrive au point pratique. Peu importe si ça fait 1000 ans que tu es chrétien, ou si c'est hier, ou si même pas encore, c'est vraiment adaptable à tout le monde. Gloire à Dieu. Ça, c'est sa parole. Et donc, la prière. Quand on entre dans ce temps, dans ce lieu qui peut être matérialisé, bah oui, parce qu'on est, on est sur Terre encore, mais quand j'entre dans ce lieu spirituel, qu'il soit dans ma chambre ou dans la forêt, c'est un dialogue que j'ai avec mon Père. Et dans le dialogue, il y a le partage, il y a dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, il y a ce que je parle, mais il y a aussi l'écoute. Écoutez aussi, peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire. Je crois qu'il a quelque chose à nous dire. C'est pour ça que c'est bon de prendre du temps et de ne pas être pressé. Mais ça peut aussi durer une minute, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément un lieu qui est matérialisé. Ça veut dire que cet après-midi, tu vas ranger quelque chose dans ta cuisine. Bah, tu peux juste, Seigneur, ah, ok, c'est bon. Tu comprends. Ce que je veux dire, c'est que c'est bon de prendre le temps, mais que c'est pas ça. Dieu va s'adapter aussi. Il va venir te chercher. Et il peut te parler aussi d'une manière instantanée. C'est ça la pensée que je veux transmettre. Il peut aussi, juste tu entres et direct tu as la pensée et tu continues. Mais c'est bon de prendre le temps. C'est comme dans les temps de jeûne. Le Seigneur t'emmène dans un temps de jeûne, tu ne sais pas jusqu'à combien de temps ça va durer. Et après un jour, bah, c'est déjà, il dit « Ok, c'est bon, c'était juste ça ». Ok, cool. Et des fois, bah, après une semaine, il dit non, ok, il y a encore quelques jours là. Ok. C'est de cette manière-là. Donc, un dialogue, quelque chose de très simple. Il ne faut vraiment pas compliquer les choses. Hein. Juste appeler la présence du Seigneur. Seigneur, je suis là. Je suis devant toi. Je m'attends à toi. J'ai besoin de ce temps avec toi. Et je me mets à part pour toi. Comment ça va? Et puis vraiment, allez. Et lui-même, par son Saint-Esprit, il va te convaincre de qu'est-ce que tu dois faire. C'est le temps pour quoi, là? Peut-être c'est le temps pour demander pardon pour plusieurs choses. Peut-être tu vas réaliser que, bah justement, la parole que tu as dit, là, bah, c'était pas forcément une parole de bénédiction. Ok, on va demander pardon. Et peut-être ce sera un temps oui, d'échange par rapport à ta famille. Ou tout est possible. Et c'est pour ça que c'est jamais ennuyant et qu'on a besoin de beaucoup de temps avec lui. Quand on aime une personne, on passe beaucoup de temps avec lui. Parce qu'on aime trop être avec lui. Parce qu'on échange. Parce que c'est une relation, c'est dans les deux sens. Il y a aussi la parole de Dieu donc qui vient s'ajouter, c'est donc la lecture de la parole de Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole énormément. Et là, encore une fois, ça peut être quelque chose de très challengeant, mais individuellement, on doit vraiment lire la parole de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu nous demande, nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole donnée de Dieu. Et c'est ça aussi qui remplit nos cœurs de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on va savoir si quelque chose est bon ou pas bon? Par mon simple intuition. Mon intuition est erronée, je suis humaine. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit en moi qui grandit pour que je comprenne qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. On a toujours besoin d'être transformé, de lire sa parole, de se nourrir de sa parole. Et enfin, le jeûne, j'en ai parlé un tout petit peu. Alors, dans la pratique du jeûne. Déjà, si vous avez des problèmes de santé, demandez à votre médecin avant de vous engager dans quoi que ce soit. C'est important. Ce n'est pas le thème aujourd'hui. On retrouve différents jeûnes dans la parole de Dieu. Et jeûner ne devrait pas être le moyen de résoudre un problème dans ta vie. Ce n'est pas parce que tout à coup tu as un problème dans ta vie ou une solution à régler ou une réponse à recevoir que tu vas jeûner. Tu vas jeûner, nous allons jeûner parce que nous nous attendons à ce qu'on se rapproche de Dieu. Si je jeûne, c'est parce que j'aime Dieu et que je veux me rapprocher de lui. C'est parce que je veux passer du temps avec lui. C'est parce que je veux aller plus profondément avec lui. Et en jeûnant, par la même occasion, je vais louper bien des problèmes dans ma vie parce que je serai encore plus focalisée sur lui. Et bien évidemment, c'est bon de jeûner aussi quand on a une question ou une situation compliquée. Mais ça ne doit pas être la raison première. La première raison, c'est que j'ai le désir de passer, de me mettre à part, de me consacrer d'une façon particulière parce que j'ai envie de me rapprocher de Dieu, parce que je l'aime, on l'a chanté ce matin, parce que je veux l'aimer de plus en plus, juste parce que je veux être avec lui et que je sais que le jeûne, c'est quelque chose qui nous est donné. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Je suis rapprochée de Dieu. Il se passe vraiment des choses incroyables. Et c'est parce que j'aime Dieu que je veux le faire. Ce n'est pas parce que j'ai un problème dans ma vie. Et ça, c'est aussi souvent dans la prière. Si je prie, souvent on a quelque chose à demander parce que la vie sur terre est des fois est un peu compliquée. Et Dieu, Jésus, il sait ça. Et il sait, ce n'est pas un problème. On peut toujours aller vers lui pour dire, ça ne va pas. Jésus, là... ça va pas. Et il va nous accueillir les bras grands ouverts. Mais je peux aussi aller dans la prière et dire, Jésus, je vais super bien. Je t'aime, je veux passer du temps avec toi. C'est les deux ensemble. OK. C'était bien plus rapide que prévu. Donc, que Dieu soit loué. Mais en fait, oui. Je me prêche à moi-même. Il n'y a aucune condamnation, il n'y a rien. C'est juste que nous soyons encouragés et rappelés que ces temps individuels avec Dieu, on ne peut pas faire sans. Et on voudrait nous faire croire qu'on peut faire sans, mais on ne peut pas. Vraiment, on ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas faire sans lui. Et si je veux plus de Dieu dans ma vie, je dois m'approcher de lui. Juste être dans sa présence dans des lieux de culte, ça c'est super, mais moi-même je dois aller plus loin avec lui. Et vraiment, on ne peut pas faire sans. Donc j'aimerais prier pour nous. Merci Seigneur, parce que on a la joie de pouvoir passer du temps avec toi, que ce soit tout seul avec toi ou bien avec nos frères, nos sœurs, nos familles, en église. Vraiment, c'est une grâce, Seigneur, et on te dit merci pour ça. Et je prie, Seigneur, que dans chacun de nos cœurs, tu puisses nous donner une soif surnaturelle de ta présence, afin, Seigneur, que nous soyons transformés à ton image. Père, c'est toi la source de nos cœurs et nous voulons être enracinés en toi, à l'abri en toi. Je prie, Père, pour la transformation de ton Église depuis l'intérieur, par la transformation de nos vies, de nos cœurs, depuis l'intérieur. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions nous mettre devant toi avec ta parole ce matin, et nous te bénissons, à toi revient toute la gloire. Amen.